Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Vous pouvez prendre votre Bible. Le livre le plus précieux qui existe sur la terre, c'est la Révélation de Dieu. Et nous allons entendre trois lectures. La première sera dans Genèse 12, les versets 1 à 9. La deuxième sera dans le livre des Actes, au chapitre 7, versets 1 à 7. Et la troisième lecture sera un verset dans Hébreux 11. Mais on commence dans Genèse 12, les versets 1 à 9. Et nous entendons maintenant ces lectures.
Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outragent. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se remirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il établit son campement entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, d'étape en étape, il gagna le Négev. Et ensuite, nous lisons dans Actes 7, versets 1 à 7. Le grand prêtre lui demanda, « Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés ?» Étienne dit alors, « Chers frères et pères de notre peuple, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham quand il vivait encore en Mésopotamie, avant de s'établir à Haran, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. » C'est ainsi qu'Abraham quitta la Chaldée et vint se fixer à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans le pays où vous habitez actuellement. Pourtant, il ne lui donna ici aucune propriété, pas même un mètre carré de terre. Mais il lui promit de lui donner le pays tout entier, à lui et à ses descendants, après lui. Alors qu'à cette époque, il n'avait pas encore d'enfants. Et Dieu lui parla ainsi. Tes descendants séjourneront dans une terre étrangère. Ils y seront réduits en esclavage et on le maltraitera pendant 400 ans. Mais, ajouta Dieu, j'exécuterai mon jugement contre la nation qui en aura fait ses esclaves. Après cela, ils quitteront le pays étranger et viendront ici même, dans ce pays, pour me rendre un culte. Et le troisième texte se trouve dans Hébreux 11, au verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait.
Voici une histoire fort intéressante et à propos pour ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est l'histoire d'un pilote au cours d'un vol d'essai, un pilote de l'aviation qui a été frappé de cécité en plein vol. D'un coup, aveugle en plein vol. Et il le fait savoir au tour de contrôle, et il est désespéré, et il l'annonce à l'officier de contrôle.
Et celui-ci lui répond simplement « Suivez mes instructions à la lettre ». Et lui fait faire plusieurs tours autour de la place d'aviation, en dégageant un peu tout ce qu'il pouvait, en préparant aussi le terrain, avec une ambulance et tout ce qu'il fallait. Et il commence à lui parler. « Maintenant, perdez de l'altitude. Maintenant, virez de l'aile. » Il avait les instruments qu'il connaissait, où ils étaient. « Maintenant, vous arrivez sur le terrain et le pilote exécute un atterrissage parfait et est sauvé. » Et peu après, il a retrouvé la vue. Eh bien, tout ce que Dieu nous demande, c'est une obéissance à 100%, guidée par son esprit. Et ce matin, je peux dire, ou j'aimerais dire à notre officier de contrôle, le Saint-Esprit, guide-nous pour atterrir sur la piste de compréhension de la parole de Dieu, afin ensuite de la mettre en pratique. Nous aimons prêcher la Bible ici de manière suivie, on fait des prédications, expositions sur des livres bibliques, parfois il y a des thèmes qui sont aussi chaque fois appuyés sur la parole de Dieu, et nous aimons aussi parler de personnages bibliques. Alors je vais prendre maintenant 5 prédications pour nous faire entrer dans la vie d'Abraham, qui est décrite en fait dans le livre de la Genèse. Nous allons retirer quelques applications aussi pour nos vies, voir comment il nous fait voir Christ également. Et aujourd'hui, nous allons faire connaissance de ce personnage qui, comme le pilote de tout à l'heure, faisait une confiance totale à l'Éternel. C'est dit dans Hébreux 11, le verset 8 qu'on a lu tout à l'heure, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Exactement, ça s'appelle l'obéissance par la confiance en Dieu, par la foi. Exactement. Et le menu du jour, nous verrons 3 éléments. La première chose, la présentation d'Abraham. Ensuite, l'appel de Dieu. Et on verra quelque chose de particulier là, qu'on ne pense pas forcément beaucoup. Donc, on va le voir à ce moment-là. Et puis, la foi d'Abraham. Nous verrons quelques éléments en lien avec la foi d'Abraham déjà. Donc, dans cette série de prédications, nous n'allons pas lire les textes forcément tous suivis, mais nous aborderons tous les textes, donc de Genèse 11 à 25, en lien avec Abraham. Où Abraham est-il né? Abraham est né en Chaldée, ou Ur des Chaldéens. C'est une ville prestigieuse, et selon les recherches archéologiques qui permettent, il nous permet de voir en fait une civilisation aux pointes du progrès, de l'écriture et des mathématiques. Intéressant. C'est une civilisation en fait encore plus brillante que l'Égypte qui construisait des pyramides. Chez les Sumériens, eh bien, ce sont des ziggourats que l'on construisait. C'est des temples en fait à différents étages avec des grands escaliers. Peut-être que vous avez déjà vu ces grandes. Abraham a donc vu des ziggourats qui étaient utilisés pour adorer toutes sortes de dieux. Et les peuples à Ur adoraient particulièrement la lune. Et il est dit dans Josué, ça c'est intéressant, regardez avec moi dans Josué 24. Josué 24, les versets 2 et la première partie du verset 3, il est dit ceci. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. » Après, je lui fais parcourir le pays de Canaan, etc. Donc on voit d'où il venait. Abraham vivait dans un contexte d'idolâtrie. Et même si il pouvait connaître quelqu'un qui connaissait Dieu assez clairement, c'était un homme qui était très très vieux et qui vivait du temps d'Abraham. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est Sem, le fils de Noé. Il vivait encore du temps d'Abraham. Nous ne savons pas s'il l'a rencontré. Mais il a, je suis assez certain, entendu parler de lui. Vous savez, si quelqu'un avait approché les 600 ans dans notre monde, tout le monde saurait qui c'est. Tout le monde chercherait à savoir ce qu'il nous dit, puisqu'en fait, il y a la sagesse du passé qui est là. D'ailleurs, Terah, le père d'Abraham, est mort avant que Sem ne meure. C'est juste pour vous donner un petit peu le contexte. Et nous sommes en 2000 avant Jésus-Christ, hein, Abraham. Et pour vous donner quelques points d'histoire, vous connaissez mes 4 points d'histoire dans l'Ancien Testament. Je vais vous en donner 6 aujourd'hui. Mais les 4 points, on les prendra toujours aussi. Mais je vous en donne 6 aujourd'hui. Le premier, c'est moins 4000. Bon, il y en a qui vont, il y a des oreilles qui vont friser pour certains, ça m'est égal, c'est biblique. C'est Adam. Moins 2500, c'est Noé, le déluge. Moins 2000, bah Abraham, exactement. Si je vous dis moins 1500, Moïse, hein, clairement, c'est pour nous donner un peu ces points de repère importants. Moïse, la sortie d'Égypte aussi. Et puis moins 1000, David, hein, la royauté qui arrive. Et puis moins 500. Bon, des fois, on dit un nom, des fois, on dit une situation qui s'est passée. C'est la déportation, on pourrait dire. Vous pouvez prendre Zorobabel, vous pouvez prendre aussi, pourquoi pas, Néhémie ou Zacharie ou Agé. Hein, mais la déportation. Voilà donc les points de repère historiques. Si vous avez ces points de repère, chaque fois que vous lisez la Bible, vous pouvez savoir où vous êtes, en fait, dans ce point historique, qui vous aide aussi à connaître le développement de l'histoire de la rédemption. Hein, de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils connaissaient déjà, qu'est-ce qu'ils avaient vécu et comment pouvaient-ils le recevoir. Ce que nous savons, c'est que la famille d'Abraham est très particulière. On va faire un peu connaissance avec cette famille. Alors, donc, j'ai dit, nous vivons 2000 ans après Jésus-Christ, lui, c'était 2000 ans avant. Ça, c'est intéressant quand même, hein, on est dans une même distance de la venue de Christ, mais dans les deux sens. Vous savez, souvent, lorsqu'on se rencontre et qu'on fait connaissance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande qui il est et quelle est sa famille, généralement. Hein, on commence par la famille. Alors, avez-vous des frères et sœurs? Combien? Quel âge? Ont-ils des enfants? Etc. Eh bien, si on rencontrait Abraham, il nous dirait qu'il a 2 frères et une demi-sœur, qui est aussi sa femme, que son frère Nahor est marié à la fille de son autre frère Haran, qui est mort. Vous avez compris? C'est pas facile, hein? Si jamais, sur les petits papiers que j'ai mis à l'entrée, je vous ai mis un plan de la famille d'Abraham, et vous vous rendrez compte que c'est pas simple, en fait, cette famille. C'est vraiment pas simple. Hein. Surtout quand les enfants arrivent encore. Mais il y a des liens de parenté qui sont là, mais tout ce qu'on sait, c'est que Abraham donc, a 2 frères, ça c'est quand même assez facile encore, hein. Donc Nahor et Haran, et puis il a une demi-sœur qui s'appelle Sarah. Afin de ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas trop expliquer tout ça, je vous encourage à regarder le petit document que j'ai préparé. Ils sont aussi disponibles sur le site. Abraham est une figure clé dans la lignée décrite dans la Genèse, ainsi que dans la généalogie de Jésus-Christ. Vous retrouvez toujours Abraham, c'est un personnage clé en fait. De tous les personnages de l'Ancien Testament, Abraham est de loin le plus important ou le plus marquant. Et ça, ben, le dictionnaire biblique le souligne très clairement. Abraham, première chose qu'on peut souligner, est dépeint avec des attributs royaux. Vous savez ça? Abraham est dépeint avec des attributs royaux. On le voit lorsqu'il vient d'une victoire sur les rois d'Orient, comme un roi qui va avoir des victoires sur d'autres rois dans Genèse 14. Ou encore Abimélec, qui est un roi du coin, le roi de Guérar, il désire conclure une alliance avec Abraham. Comme s'il était un roi, en fait. Donc, Genèse 21. Ou encore, dans Genèse 23, il est carrément désigné par les habitants de Hébron comme le prince de Dieu. En fait, la généalogie décrite dans Genèse nous prépare à l'établissement d'une lignée royale. Et David en sera la figure principale, annonçant le roi des rois, Jésus-Christ, le fils de Dieu, le fils d'Abraham, le fils de David, hein, si on... va faire toute cette généalogie. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, Abraham est également appelé ami de Dieu. Ça, c'est aussi une particularité d'Abraham. On n'a pas d'autres personnes dans l'Ancien Testament où c'est clairement dit qu'il était ami de Dieu. Ça, c'est Jacques qui nous le rappelle d'ailleurs. Il est dit dans Jacques 2, 23. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » C'est intéressant, c'est dans un contexte de justification qu'il est donné ici. Et Jésus d'ailleurs appellera aussi ses disciples, ses amis. Vous vous rappelez dans Jean 15, 14 et 15, où il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. » C'est intéressant parce que Dieu, en fait, cette notion de faire connaître, il fait la même chose avec Abraham. Il dit « Mais il faut quand même que je lui dise ce que je vais faire. » On en parlera dans une prochaine prédication sur Abraham avec cette situation de Sodome, hein, et Gomorrhe. Mais Dieu a manifesté sa gloire à Abraham, comme nous le verrons tout à l'heure. Abraham est le père de plusieurs nations. Il est aussi appelé le père de la foi. Abraham est cité à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Plus de 70 fois, ou 70 fois si vous ne parlez pas le suisse. C'est un personnage très important pour comprendre le développement de l'œuvre de rédemption dans toute la Bible. Abraham est un père dans la foi. Il est un père dans la foi. C'est l'exemple même du salut par la foi. C'est au travers de lui, d'ailleurs, que Dieu bénit toutes les nations. C'est très fort, c'est un personnage vraiment central. C'est intéressant aussi, lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse 12, comme on l'a entendu tout à l'heure, qu'il prononce 5 fois le mot « bénir » dans l'appel adressé dans Genèse 12. Et c'est intéressant parce que 5 fois précédemment, nous trouvons le terme « maudire » face à l'humanité déchue. 5 fois, et là, 5 fois le terme « bénir » au travers d'Abraham. C'est comme un contrepoids à la malédiction de la chute que Dieu veut donner au travers de lui. Et c'est en cela que Dieu bénira toutes les familles de la terre, c'est par le salut qu'il amènera en Jésus-Christ. Alors lorsque nous pensons à Abraham, bien sûr, la foi vient à notre esprit et la bénédiction devrait aussi venir à notre esprit. Abraham, enfin, c'est aussi le début du peuple de Dieu. Le début du peuple de Dieu. C'est vrai qu'une lignée existait déjà avant lui, mais la notion de peuple, c'est Abraham qui l'inaugure. C'est à ce moment-là, en fait, que la notion du peuple est inaugurée. Abraham, l'hébreu, c'est pour ça qu'on appelle les Hébreux. Alors, je ne vais pas plus décrire Abraham maintenant, mais je vais vous donner déjà ces quelques éléments clés importants parce que nous allons découvrir ses traits de personnalité tout au long de cette série de prédications qui lui est consacrée. Mais nous pouvons retirer quelques considérations de départ que Abraham est une figure clé de la Bible et c'est important d'apprendre à le connaître. Si quelqu'un ne connaît pas Abraham, ne connaît pas ce qu'il a vécu, il a beaucoup de difficultés à comprendre plusieurs éléments de l'histoire de la rédemption. Et une idée, ça je vous encourage à le faire, c'est de relire son histoire de Genèse 11, 27 à 25, 11, donc Genèse 11 à 25, de relire ces chapitres pour vous mettre dedans. Vous pouvez même le relire avant chaque prédication qu'on aura, pour chaque fois avoir en tête l'histoire d'Abraham. Ce que vous pouvez aussi faire peut-être, c'est cet après-midi ou ce soir, ou quand vous avez votre prochain culte en famille, c'est en fait de chercher à raconter tous les points que vous connaissez de l'histoire d'Abraham. Les uns aux autres. C'est un moyen aussi de revenir dans cette histoire. Alors, j'aimerais nous tourner maintenant vers la deuxième partie que j'aimerais voir avec vous, c'est l'appel de Dieu. Abraham a été appelé. Comment se passe l'appel de Dieu ? À quel moment le reçoit-il ? Alors là, c'est Genèse 12 que l'on voit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse 12, vous avez, avant Genèse 12, Genèse 11, quoi. Ce n'était pas trop difficile. Et dans la fin de Genèse 11, en fait, vous avez l'explication générale de la descendance de Nahor, le père d'Abraham. Donc là, on a un petit peu les informations générales du 27 à 32. Et puis ensuite, verset 1 du chapitre 12, on arrive à l'appel d'Abraham. Mais quand cela s'est-il passé ? Eh bien, c'est acte 7, avec ce que Étienne nous dit, qui va nous aider à comprendre certains éléments qu'on n'aurait pas pu comprendre par ce texte. Parce que la Genèse donne les paroles que Dieu prononce, mais il ne donne ni le moment, ni la manière dont il le fait. Il donne les paroles ici. Okay. Dans le livre des Actes, et là c'est acte 7, 1 à 7 qu'on a entendu tout à l'heure, il est dit deux choses importantes. La première, c'est que le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Ça c'est fort. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Et deuxièmement, Dieu lui est apparu en Mésopotamie avant Haran. Ça, c'est dans Actes que c'est écrit. Okay ? Ça, dans la Genèse, on n'a pas cet élément. Dans la Genèse, quand on le lit, on a l'impression, Terah, il meurt au verset 32, puis au verset 1 du chapitre 12, Abraham, il reçoit l'information qu'il doit partir. Puis on voit que dans le livre des Actes, ça ne s'est pas passé comme ça chronologiquement. Ça n'enlève pas du tout la vérité de Genèse 12, elle est vraie, c'est vrai. Mais Genèse 12 nous parle des paroles de Dieu pour Abraham, pas exactement de la chronologie. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que Dieu est apparu à Abraham? Ça c'est un premier élément important, qu'il est apparu à Abraham. Abraham vivait dans un milieu idolâtre. Et l'apparition de Dieu nous permet de comprendre pourquoi Abraham l'a écouté. Il était dans une situation idolâtre, pourquoi il l'écouterait? Parce que Dieu a apparu à Abraham. C'est pour ça qu'il l'a écouté. Une chose est sûre, lorsque Dieu apparaît, l'homme qui reçoit sa visite est radicalement changé. Ça, c'est sûr. Quand Dieu visite, il touche. Il suffit de penser à Moïse lorsqu'il a vu le buisson ardent ou à Saul de Tarse lorsque Dieu se manifeste sur le chemin de Damas. Leur vie a été transformée. Pas été facile, il y a eu des luttes, c'est possible, c'est vrai. Mais ça n'a plus jamais été comme avant. Lorsque Dieu apparaît, plus rien n'est comme avant. Il n'est plus possible de faire comme s'il n'était pas là. Il est apparu. Pour Abraham, plus rien n'est comme avant. De sédentaire, il deviendra nomade. De majoritaire dans l'idolâtrie, il deviendra minoritaire dans l'adoration du seul vrai Dieu. Un commentateur dit ceci, « Désormais, rien ne pourrait plus être comme avant. Les festivités idolâtres n'auraient plus d'attrait. La civilisation d'Ur en Chaldée ne l'éblouirait plus. » Et là, maintenant, on peut déjà un petit peu réfléchir à nous. Et nous, est-ce que les festivités mondaines et la civilisation moderne nous attirent et nous éblouissent comme quelque part une lumière qui est plaquée sur nos yeux? On n'arrive pas à détourner nos yeux de cette lumière. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? Ou est-ce que l'Éternel, le soleil, nous est-il apparu? Ceux qui nous détournent de la lampe, d'ailleurs, on ne peut même plus voir si elle est allumée ou teinte quand il y a le soleil. Quand Dieu se manifeste, eh bien, nous ne pouvons plus vivre comme avant. Est-ce que Dieu t'est déjà apparu? Je ne suis pas en train de vous dire avec un buisson de feu. D'ailleurs, Abraham, il ne nous a pas dit comment. On ne sait pas. Mais la parole de Dieu nous aide à comprendre que si nous le voyons directement, nous serions foudroyés morts. Voilà, ça c'est clair pour tous. Mais elle nous dit aussi que par Jésus-Christ, nous pouvons voir le Père. Nous pouvons voir Dieu. Et le message de l'Évangile apporté à nos cœurs, éclairé par le Saint-Esprit, est la rencontre avec Dieu. Et là, la question c'est, Dieu t'est-il déjà apparu maintenant avec ces informations? Est-ce qu'il est là, vraiment? Donc Dieu est apparu à Abraham, selon Actes 7:2. Deuxièmement, Dieu est apparu en Mésopotamie avant Haran, sûrement à Ur en Chaldée, avant qu'il se mette en route, avant qu'il parte. Dieu appelle Abraham, on pourrait dire, une première fois à Ur, sur son lieu de naissance. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, là, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, parce que je dis rien. Eh bien, on n'a pas tous les éléments de ce qui se passe à Ur en Chaldée. On a quelques éléments. On va relire les termes qui sont donnés dans Genèse 12:1, donc par rapport aux paroles. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Et en fait, on voit avant, dans le chapitre 11 et dans Actes 7, puisque là, Étienne raconte l'histoire, qui dit ceci, ce qui s'est passé, on va aller dans chapitre 11, verset 31. « Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, son fils fils d'Aran et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitèrent. » Il y a plusieurs choses dans ce texte qui sont assez étonnantes. C'est d'ailleurs Terah qui semble prendre l'initiative de partir et pas Abraham. C'est étonnant, non? Dieu, il a apparu à Abraham, non? Deuxièmement, c'est toute la famille qui part. Alors que Dieu dit de partir de la maison de son père, sortir de la maison de son père. Là, c'est toute la famille qui part. Et c'est vrai qu'ils prennent la direction du pays de Canaan, mais ils s'arrêtent à Haran. Tout ceci nous fait penser qu'Abraham n'a obéi qu'à moitié à l'ordre de l'Éternel. Il sort du pays, mais il ne sort pas de sa famille. Mais que s'est-il passé? Étienne nous indique que l'Éternel s'est manifesté à Abraham avant Haran. On pourrait dire comme Job, Abraham peut dire « Maintenant mon œil t'a vu ». Il doit partir pour un pays étranger, par un chemin qu'il ne connaît pas, simplement sur l'ordre de l'Éternel. Ok. Nous pouvons souligner ici que Abraham s'appuie sur les paroles de l'Éternel. Il les prend au sérieux et on devient ainsi totalement dépendant. Il faut partir, il ne sait pas encore où, mais il y va. Ok. Tout cela est très bien, il nous encourage à faire de même. C'est bien. Abraham, tout naturellement, a dû mettre sa famille au courant de ce qui se passait. Et là, il semble qu'il n'y a pas d'opposition. Pas de moquerie, pas de plainte, de recherche à le convaincre qu'il fait fausse route. Abraham a affaire à une difficulté en fait beaucoup plus insidieuse. Ses amis ne s'opposent pas et en plus ils veulent le suivre. Cela peut-être a pu encourager Abraham. Quelle joie de voir des gens intéressés à suivre la parole de Dieu. Son père d'ailleurs semble prendre les commandes et emmène tout le monde en direction de Canaan. Est-ce que ce n'est pas une facilitation pour l'obéissance d'Abraham? Mais comme un proverbe le dit, tout ce qui brille n'est pas or. Ce qui parfois semble être un travail de la grâce n'est qu'un mouvement de la nature non renouvelée, comme les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte avec les Israélites. Et il y en a qui sont sortis avec. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Beaucoup se sont révoltés. Ils sont bien sortis avec eux, mais ils se sont révoltés. Pour Abraham, tout semble bien se dérouler. Ils partent en direction de Canaan, mais un peu plus de 1000 km plus tard, sûrement fatigués, attirés par la vie sédentaire dans une ville importante, l'équipe s'arrête à Haran. Et qu'est-elle dit dans Genèse 11, 31? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Qu'ils y passèrent, ils passent, et puis non, ils y habitèrent. Ils s'arrêtent. J'ai l'impression là d'entendre que Paul qui dit dans Galates 5, 7, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté ?» Et vous empêchant d'obéir à la vérité. Quelqu'un a dit, « Tant de croyants quittent leur our en Chaldée, mais s'arrête à Haran. Que de Harans modernes sont devenus les tombeaux de précieuses vocations et une grande perte de temps. En fait, Abraham est parti en direction de Canaan, mais s'est arrêté en route. Peut-être son père était-il fatigué et il fallait des soins. Nous ne le savons pas. Mais ce que nous constatons, c'est que tant que Théra, son père, vit, Abraham semble incapable de prendre les choses en main et obéir à l'ordre de l'Éternel, qui pourtant lui disait de partir de la maison de son père. Donc ça, c'est un élément clair ici. Tant que Théra vit, Abraham semble incapable de prendre les choses en main et d'obéir à l'ordre de l'Éternel, qui pourtant lui disait de partir de la maison de son père. Il a fallu que Théra meure pour qu'il daigne enfin écouter la voix de l'Éternel et partir en Canaan. Et c'est là qu'on arrive à Genèse 12. Est-ce qu'il y a eu un deuxième appel à ce moment-là? Ça, je ne peux pas vous le dire. Simplement, c'est là qu'il part, vraiment. Jésus a dit en Luc 14, 26 que celui qui n'est pas prêt à tout quitter pour le suivre ne peut pas être son disciple. C'est Jésus qui le dit. Vous pouvez aller lire ça dans Luc 14, 26. Donc la question que l'on peut avoir dans nos vies, c'est qu'est-ce qui te retient dans ta vie pour enfin répondre à l'appel de Dieu? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui fait que tu n'obéisses qu'à moitié? Ouais, tu viens à l'église, tu lis même ta Bible régulièrement, tu pries aussi et tu témoignes de Jésus-Christ, mais pourquoi continues-tu à garder un jardin secret qui ne plaît pas à l'Éternel? Pourquoi n'utilises-tu pas les dons qu'il t'a donnés premièrement pour son royaume? Lorsque nous savons ce que Dieu veut, alors des fois on est en train de chercher, ça c'est aussi, et c'est normal qu'on est dans le cheminement, mais lorsque nous savons ce que Dieu veut dans notre vie et que nous ne le faisons pas, en fait nous pratiquons la demi-obéissance. On dit ok, je veux bien aller à l'église, j'obéis à moitié, demi-obéissance. Et la demi-obéissance dans la parole de Dieu s'appelle la désobéissance. Voici une histoire qui va nous montrer l'importance de l'obéissance immédiate et totale à l'appel du Seigneur. Un jeune boulanger, à l'issue d'une semaine d'évangélisation, un certain vendredi soir, resta pour parler la question de son âme avec le prédicateur. Il était vraiment saisi par la parole de Dieu et il était décidé à commencer une vie nouvelle avec Jésus. C'était vraiment très profond pour lui, il le désirait. Et dans une confession sincère de ses péchés, bien des choses cachées, il les a fait venir à jour pour les confesser à Dieu.
Ce jeune homme, c'est vrai, reconnu qu'il avait un petit penchant pour la boisson. Et puis il était membre actif d'un club de foot et il lui arrivait fréquemment, après un match victorieux, de faire la troisième mi-temps, hein, et de fêter le triomphe jusqu'à en devenir entièrement ivre. Alors, il reconnut que s'il voulait dominer sa passion, il devait donner sa démission à ce club.
Mais il expliqua au prédicateur qu'il était décidé à suivre Jésus à partir du lundi suivant. D'abord, on va faire le dernier match. Hein.
Mais l'homme de Dieu lui dit, mais on peut pas faire un tel marché avec Dieu.
Saisi comme vous l'êtes, vous devez obéir immédiatement. Les décisions pour Jésus sont prises aujourd'hui, jamais demain. L'heure de Dieu, c'est aujourd'hui. L'heure de Satan, c'est demain. L'heure de Dieu, c'est aujourd'hui. Mais le jeune homme résista. Il dit, mais je ne peux pas laisser tomber mes copains. Je dois jouer ce dimanche parce qu'ils ont besoin de moi pour le match. Ok. Alors, mais dès lundi, je suivrai Jésus. Le dimanche soir, après la victoire du match, ce fut la fête habituelle.
Il but jusqu'à tard dans la nuit. À la fin, un camarade de jeu l'a invité, le jeune boulanger, à le ramener chez lui à moto.
Et en s'assuyant sur le siège, ils étaient bien sûr pleins de vin, et il s'écrie en se moquant, « Et maintenant, en route pour l'enfer !»
Le conducteur et son compagnon étaient tous les deux ivres. Après 5 minutes de course, ils quittent la chaussée, et ce fut l'accident. Le jeune homme frappa la tête contre un arbre et il mourut sur place.
Ce terrible accident arriva quelques minutes avant minuit.
Ou avant le lundi matin, si vous voulez.
Quelques minutes avant le lundi où il aurait dû commencer sa vie nouvelle avec Jésus. N'est-il pas écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui.
Heureusement que Dieu, dans sa miséricorde, nous donne souvent, je ne sais pas si je peux appeler ça une deuxième chance, mais de revenir à lui. Il a une grâce extraordinaire. On ne doit pas compter sur cette grâce, parce que demain, on ne le connaît pas. Mais je trouve quand même, c'est magnifique ce qu'il fait, parce que parfois, il enlève les terrains qui sont sur notre route. Il enlève les matchs qui devraient être joués pour que nous soyons directement près de lui. C'est vrai. Mais ça, notre responsabilité, c'est de venir tout de suite à lui.
Peut-être pour vous, c'est la deuxième fois comme Abraham que vous entendez sa voix. Est-ce que vous allez vous engager par la foi comme Abraham?
C'est le dernier point qui nous parle de sa foi, justement, que j'aimerais voir avec vous. On va souligner brièvement 6 éléments qui accompagnent la naissance de la foi pleine et entière d'Abraham. Et nous verrons aussi qu'il guide nos regards vers Christ qui, dans son humanité, ça c'est intéressant aussi, en réfléchissant à cette prédication, je me suis dit, mais en fait, Jésus, en tant qu'homme, il a vécu la foi comme vous et moi. Ce n'est pas quelque chose qui était inné en lui, et puis il avait... Non, il a vécu la foi comme vous et moi. Et on va justement un petit peu le voir.
Donc premièrement, le premier élément de foi ici qu'on voit chez Abraham, c'est la crainte du Seigneur qui accompagne la foi. La crainte du Seigneur. Abraham a réalisé qu'il est dans une ville de destruction, comme chrétien dans le voyage du pèlerin, et qu'il faut partir. C'était dur en caldé, là. Il faut partir, c'est important. Eh bien, prions l'Éternel d'agir dans nos cœurs afin que nous ressentions notre grand besoin d'être sauvés du péché. Si vous ne ressentez pas le besoin d'être sauvé du péché, il y a un problème. On le désire, tout croyant désire être sauvé du péché. Nous le désirons. La foi contient la crainte du Seigneur et un très grand respect qui ne veut surtout pas agir de manière à déplaire à Dieu qui nous donne le meilleur. Donc la foi contient la crainte du Seigneur. Et Jésus-Christ, justement on fait ces liens avec lui, hein, avait un respect total. Il y avait une crainte, si on veut, hein, pas une crainte de peur, mais un respect total de Dieu le Père, qu'il vénérait. Il ne craignait qu'une chose, si vous me permettez cette expression de crainte. Craignait qu'une chose, c'est de déplaire à Dieu ce qu'il n'a jamais fait et qu'il l'a conduit à la gloire.
Abraham avait compris que répondre à l'appel du Seigneur le conduirait vers une vie meilleure et une demeure éternelle, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça, c'est Hébreux 11 qui nous permet de comprendre cela. Donc ça, c'était le premier élément, la crainte du Seigneur. Deuxième élément que nous voyons, c'est ce ne sont pas les bonnes œuvres, mais la confiance obéissante qui est le fondement de la foi. La confiance obéissante. Abraham ne cherche pas à se justifier, à prouver à Dieu qu'il mérite son entrée au ciel ou dans le pays promis. Il n'affiche aucune confiance en lui-même. Il écoute Dieu et suit ses instructions. On verra qu'après Genèse 12, il y a vraiment une foi qui se développe de manière très forte. Comme un enfant qui se jette confiant dans les bras de son père, qui lui dit de ne pas avoir peur et de sauter. Ça, c'est une image qui est fabuleuse. Vous êtes là en bas du mur, l'enfant de mur, vas-y, saute. Il saute, pas de souci, il va me rattraper. Une foi confiante. Notre seul espoir dans notre vie, c'est l'œuvre de Christ et qui est mort à la croix pour nous racheter et qui est ressuscité et qui nous donne la vie. La foi n'est pas le produit de bonnes œuvres, c'est une confiance obéissante. Une confiance obéissante. Et là, si on revient vers Jésus, chaque fois on va faire ce lien avec Jésus, Jésus a montré une confiance à Dieu telle que même dans l'angoisse de la mort la plus difficile, il veut faire sa volonté. Il est tellement confiant en son Père que même si lui c'est très difficile, il dit « Que ta volonté soit faite, j'ai complètement confiance en toi ». Troisième élément de foi que l'on voit dans la vie d'Abraham, c'est la séparation d'avec le monde. Là, on l'a aussi vu, il a commencé en partant d'Ur en Chaldée, après il y a eu un petit arrêt, parce qu'il y a vraiment le départ de Haran. Dieu appelle Abraham à quitter. Sommes-nous prêts à couper les ponts avec les amis qui nous entraînent dans le péché? Il part des amis qui nous entraînent dans le péché. Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde, ne me comprenez pas mal. Mais il y a des personnes qui nous tirent dans le péché et qu'on a déjà dit non, je ne peux pas, et ils vous tirent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est prêt à couper les ponts? Sommes-nous prêts à quitter les habitudes du monde pour entrer dans le chemin que Dieu a préparé pour nous selon ses critères? Pas les miens, les siens. Abraham a obéi à l'appel de Dieu en quittant son pays, sa patrie et finalement la maison de son père. C'est intéressant de voir Jésus, ce qu'il a vécu. Il était totalement séparé du monde, tout en vivant dans le monde, mais totalement séparé du monde. Et pourtant, il est venu dans le monde, mais il ne s'est jamais lié au monde. C'est assez fou ce qui s'est passé avec Jésus, c'est extraordinaire. Et dans 1 Jean 2, 16, c'est bien décrit qu'est-ce que c'est que le monde, avec quoi Jésus ne s'est pas lié. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Jésus n'a jamais été en lien avec ces choses-là. Quatrième élément de foi, la saisie des promesses de Dieu accompagne la foi. Quand il y a la foi, les promesses sont là. On croit en quelque chose. J'avais une fois pris l'illustration d'un ballon à air chaud. Si vous mettez le panier, vous avez déjà vu un ballon à air chaud, un gros ballon avec un panier. Si vous mettez un panier sans ballon, c'est un panier, quoi. Il ne va jamais s'envoler. C'est comme la foi sans les promesses. Même chose. Vous savez, nos voisins, collègues et autres amis du monde penseront toujours qu'on renonce à des choses pour rien. Des bonnes choses selon eux. Mais ces bonnes choses, on sait, selon eux, nous éloignent de Dieu. Donc on va y renoncer. Mais c'est de la folie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les promesses. Prenez donc Abraham qui a une bonne situation, il a des serviteurs en nombre, il peut se la couler douce, tranquille, peinard, profiter à vie, à Ur et même à Haran. Non. Il va dans un Dieu où lui ne sait pas, mais Dieu sait où il va. Parce qu'il a entendu des promesses. Dieu lui a donné des promesses. Ces personnes ont saisi les promesses de Dieu. Ceux qui nous disent qu'on est fou de renoncer à des choses qui semble bonne selon eux, puis ça ne sert à rien, c'est qu'ils ne connaissent pas ces promesses. Les promesses données à Abraham, par exemple, Dieu lui donne un pays en possession perpétuelle pour lui et sa famille. Vas-y, tu auras un pays. En restant où il est, il peut tout perdre. Tandis qu'en partant, il est sûr qu'il aura le pays. Dieu l'a promis. Deuxièmement, il fera de lui une grande nation. Il bénira ses amis et protégera ses ennemis. Mieux encore, Dieu accomplira son plan de salut pour les gens de toutes les nations, de toutes les générations, par l'entremise d'un membre de la famille d'Abraham, le Sauveur à venir. La bénédiction pour les gens de toute la terre. C'était une promesse extraordinaire qui lui a permis d'aller de l'avant. Alors ma question pour vous, pour nous, est-ce que vous connaissez des promesses de Dieu pour ceux qui se tournent vers lui? Est-ce que vous en connaissez? Avez-vous le ballon qui puisse faire monter la nacelle? On peut en citer quelques-uns. Le soulagement des péchés pardonnés. Lorsqu'on va vers Christ, qu'on demande pardon, il nous pardonne. C'est une promesse. La joie de connaître personnellement le Seigneur. Ces temps d'intimité que le chrétien a avec Jésus-Christ, on ne peut pas l'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ça. Mais c'est une promesse qu'il nous donne et que nous pouvons vivre aussi. Le réconfort de sa présence. Combien de personnes, même dans les situations les pires, sont réconfortées? Alors ça, je vous assure que pour celui qui ne connaît pas ses promesses, il ne comprend rien du tout. Jésus réconforte. Des directives sûres de sa parole qui sont toujours pour notre bien et qui ne changent pas. C'est une promesse extraordinaire, ça. Ou encore l'espérance du ciel, ou le privilège de le représenter dans le monde comme ambassadeur. Lui, le roi des rois, nous sommes ses représentants ici. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire encore qui parle de la confiance dans les promesses de Dieu. C'était aux États-Unis vers les années 1850. Une dame toujours soucieuse et triste disait à sa servante, qui elle était toujours sereine et enjouée, « C'est bien d'être joyeuse, mais il me semble pourtant que la question de votre avenir devrait atténuer un peu votre joie. Supposons que vous tombiez malade. Supposons que vos employeurs déménagent et que personne ne vous donne de travail. Et là, la servante intervient et dit « Est-ce que je peux vous dire quelque chose ?» Vous savez, madame, moi, je ne suppose rien. Le Seigneur est mon berger. Moi, je ne manquerai de rien. Tous ces supposons vous rendent triste. Vous devrez bien mieux les laisser là et avoir confiance au Seigneur. Et dire que cette patronne se disait croyante, mais c'était sa servante qui vivait sa foi. La foi d'Abraham saisit les promesses de Dieu et s'y confie. Ce n'est pas des suppositions. Ce sont des promesses que Dieu a données qu'ils vont s'accomplir. Jésus s'appuyait sur toutes les promesses de Dieu dans ce qu'il disait et faisait. Il était persuadé que tout ce que Dieu avait annoncé allait s'accomplir. Tout, sans aucune exception. Et régulièrement, Jésus disait même que cela se faisait pour s'accomplir ou même qu'il faisait pour que ça soit accompli. Il était persuadé que tout ce que Dieu avait dit allait s'accomplir. Cinquième élément de foi, croire que Dieu peut accomplir l'impossible accompagne la foi. Abraham, on verra aussi dans sa vie un peu plus tard, mais il a 75 ans, 75 pour ceux qui ne parlent pas le suisse. Donc 75 ans, il n'a pas d'enfant, mais Dieu lui promet une descendance. Alors là, il faut quand même croire que Dieu peut faire l'impossible. Même lorsqu'il est prêt à sacrifier Isaac. Donc il a eu un fils, et là, Dieu demande de ça. Il va sacrifier Isaac. Il croit que Dieu peut ressusciter son fils et continuer la lignée. Il croit au Dieu de l'impossible. Il n'a jamais vu quelqu'un ressusciter après un sacrifice. Mais Dieu peut tout le faire. Il peut le faire. Votre cœur peut sembler trop dur. Impossible de changer ce pécheur que je suis en serviteur de Dieu fidèle. Le cœur de votre enfant vous paraît plus dur que du granit. Le cœur de vos parents, pareil au diamant incassable. Abraham crut que Dieu pouvait faire l'impossible. Jésus a toujours cru que Dieu... Que rien n'était impossible pour Dieu. Il a même dit à ses disciples, un verset très court qu'on peut apprendre par cœur, très facile, c'est Luc 1, 37. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Ce que Jésus a dit à ses disciples. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Sixième et dernier élément de foi, le don de Dieu accompagne la foi. La Bible nous enseigne que la foi est un don de Dieu et Jésus en est l'auteur. Hébreux 12, 2. La Bible nous enseigne que la foi est un don de Dieu, et Jésus en est l'auteur dans Hébreux 12:2. Jésus lui-même déclare « Demandez et l'on vous donnera. » Demandez et l'on vous donnera, Matthieu 7:7. Jésus lui-même, d'ailleurs, maintenant si on parle de Jésus lui-même en tant qu'homme, a reçu le don de la foi qui s'est développé d'enfant à adulte. Ça se développe, c'est normal. Donc ça, c'est 6 éléments de la foi naissante que Dieu donne à Abraham. Abraham est un homme de foi. Il n'a pas toujours fait tout juste. On le verra d'ailleurs ensemble en cheminant avec lui dans cette série. Et pourtant, Dieu le cite en exemple de foi. C'est celui qui a le plus de place dans les héros de la foi de Hébreux 11. C'est fort, ça. Alors, je vous dis quand même aussi que si c'est celui qui a le plus de place dans Hébreux 11, Hébreux, au début du livre, explique qu'il y a quelqu'un de plus grand que Abraham. C'est Jésus-Christ. Et c'est vers lui que nous voulons tourner nos regards pour entendre cet appel et le vivre d'une manière qui l'honore. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Est-ce que tu vas répondre avec foi? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, quelle grâce de pouvoir ouvrir ta parole, de découvrir aussi des personnes dans la Bible, des personnes qui sont comme nous, vivants parce que tu leur as donné la vie. Ils ont des corps comme nous, ils ont des besoins comme nous. Ils ont vécu dans des situations qui étaient difficiles, remplies d'idolâtrie comme nous. Et Seigneur, tu es ce Dieu qui te révèle, qui t'est révélé à Abraham, d'une manière particulière, c'est vrai, que nous ne connaissons même pas exactement, comme tu te révèles aussi d'une manière particulière à nous. Nous ne savons pas toujours exactement comment tu t'es révélé à celui qui est à côté de nous. Parfois, nous n'arrivons pas vraiment à l'expliquer complètement. Mais tu le fais encore aujourd'hui, par l'œuvre de ton esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui donne ce don de la foi qui saisit l'œuvre de Christ. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que chacun ici puisse vivre cette rencontre avec toi, réellement. Et non seulement une fois, mais que cela puisse être vécu tout au long de notre vie, comme tu l'as fait avec Abraham. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu es ce Dieu qui nous appelle, qui nous accompagne, qui nous guide et qui sera là jusqu'au bout avec nous. Nous voulons te prier, Seigneur, que ce personnage nous aide à voir Christ encore plus grand, que ce personnage d'Abraham nous permette aussi d'apprendre des leçons utiles pour nos vies, afin de progresser. En ton honneur, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.